I'm telling you, you guys were born for this. You were born for this. Bunch of funky old seniors. We ain't got many. And you guys got 50 wins. Nobody in the history of the ACC's got 50 wins. Ever. I mean, it's unbelievable. It's amazing. You got 51 will be the only team in college football history. Ain't nobody ever had 51 wins. It's special to see what you guys have done. Let me tell you, it's not easy to do what you guys have done. You made it, and we've had perseverance all year. The difference between a champ and a chump is you.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans la 10e émission de Good Morning Clemson, déjà la 10e. Nous sommes à 8-0. ouais, on va dire que c'est pas mal, mais bon, on a souffert pour avoir ces 8-0 pour le moment. Donc nous accueillons pour la première fois dans l'émission et c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. C'est vraiment super sympa d'avoir accepté l'invitation. On accueille donc Augustin Notre-Dame France sur Twitter et qui fait partie de la bande The Trick Play. Bonjour Augustin, comment ça va?
Très bien, et vous? Vous allez bien?
Ça va, ça va.
Pas trop stressé?
Un petit peu, parce qu'on sent le match piège demain quand même. On le sent. Hein. C'est vraiment, ça va être tendu. Je pense que avec Pierre, on risque d'être très très tendu.
Bah, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle pour moi. Alors si vous êtes tendu.
Ouais. Bah, façon, en même temps, Clemson, on va pas se mentir. Hein. On se lance pas trop de fleurs non plus. On n'est pas trop rassuré depuis le début de saison non plus, quoi.
Après, vous êtes à 8-0. Vous avez battu les mais... placés, c'est pas le cas de beaucoup d'équipes, donc.
Bien sûr, bien sûr. Mais après, pour avancer dans les détails un petit peu, il y a la victoire, mais il y a pas toujours la manière, quoi. Donc en college football, on sait que c'est pas toujours évident. Même des équipes comme Bama, même des équipes comme Georgia, ils ont souffert cette année. Toutes les équipes souffrent un petit peu, et c'est vrai que mais nous on a, je trouve qu'on aime, comme dit Pierrot, on va engager après. Bonjour Pierrot déjà, pardon. Excuse-moi.
Salut.
Bonjour mon Pierrot.
Salut.
On en parle assez souvent. La quatrième position à Live People qui est sortie cette semaine, on en reparlera plus tard. Mais on en parle souvent avec Pierrot. Pour nous, c'est un peu gonflé. Mais bon, on en reparlera plus tard. Et on accueille aussi Andrea ce soir, qui aura la chance d'être en direct de Notre-Dame demain au stade. C'est quand même incroyable. Elle va nous faire encore vivre un moment super demain. L'ambiance sera là, apparemment. Ça annonce une grosse ambiance.
C'est un petit peu la crainte des fans de Notre-Dame, parce qu'on a un souvenir douloureux de 2017 où on avait accueilli Georgia. Et le stade de Notre-Dame était complètement rouge. Alors, il y a plein d'explications à cela. D'abord, la première explication, c'est que Notre-Dame, c'est un programme plutôt ancien et les fans sont plutôt âgés, entre guillemets. Ce qui veut dire que t'as moins d'étudiants, d'autant plus que Notre-Dame, c'est une école privée et que du coup, il n'y a que, je crois, 7 ou 8 000 étudiants qui viennent voir les matchs, alors que des facs comme Texas A&M, Clemson, je ne sais pas du tout c'est quoi le nombre d'étudiants, mais à Texas A&M, t'as 30 000 étudiants qui sont fous furieux pour tous les matchs. Notre-Dame, c'est pas le cas. Donc voilà, du coup, on a un petit peu du mal, depuis quelques années, à mettre les vieux de côté, pas de leur dire de pas venir au match, mais plutôt de oui, mettez de la musique, mettez du rap, mettez de l'ambiance, soyez debout, c'est un petit peu plus compliqué, donc voilà, c'est pour ça qu'on a du mal. Et surtout South Bend, c'est en plein milieu de l'Indiana, il y a rien à côté, il y a Chicago, 4 heures de route, Mishawaka, c'est quand même compliqué de se déplacer à Notre-Dame, donc si c'est ce qui peut expliquer que parfois on peut se faire un petit peu dépasser par les fans des équipes adverses. Et comme Andrea y va, il y a beaucoup de fans de Clemson qui seront au match ce week-end et ça fait peur à énormément de fans de Notre-Dame.
Okay. Ouais. J'espère le stadium demain complètement l'orange.
Faut pas rêver non plus, mais ouais, ça peut être de booster les joueurs, ça peut être de booster l'équipe. Non, mais après c'est vrai que pour engager donc la conversation, on va faire court. Gus, on va te laisser te présenter un petit coup quand même. Donc voilà, on sait que t'es membre de la team The Trick Play, c'est plutôt super ce que vous faites. Vous faites un super travail, je le répète assez souvent. C'est vrai que pour moi vous êtes les numéro 1 de l'équipe de college football à suivre, que ce soit sur Twitter, sur Twitch, machin, vous faites des trucs super et c'est vraiment super de vous suivre. Vous faites un boulot de fou tous ensemble. Vous êtes une bande de potes, c'est vraiment plaisant de vous écouter chaque jour. Et ensuite, Gus, présente-toi vite fait. Et pourquoi tu as choisi Notre-Dame avant de rentrer dans le vif?
Vous l'avez deviné, maintenant je tiens le compte Twitter Notre-Dame France. Alors comment je suis devenu fan, c'est un petit peu compliqué. À ma sortie de lycée, j'ai regardé pour partir à l'université aux États-Unis. Et forcément, pour partir à l'université aux États-Unis, il y a toute cette logique de scholarships, de bourses à obtenir. Et il se trouve que je faisais du rugby à un plutôt bon niveau, donc je pouvais être éligible à des bourses aux États-Unis. Je vais sur le site usarugby.com pour regarder quelles universités proposent des bourses sportives, et je suis tombé sur un Notre-Dame College. Donc forcément, moi après, j'allais sur Google taper le nom de chaque université qui proposait des bourses, etc., pour me renseigner. Et en écrivant Notre-Dame College, je précise bien Notre-Dame College et non pas University of Notre-Dame, je suis tombé sur la fac de Notre-Dame. J'ai vu le Golden Dome, Touchdown Jesus, le Notre-Dame Stadium, etc. Et en fait, quand on est européen, on a un peu du mal à comprendre comment le sport universitaire, comme un collège football, ça peut marcher, ça peut être aussi impressionnant. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je m'y suis attaché. Pour l'anecdote, Notre-Dame College, c'est une toute petite université dans l'Ohio. Donc en fait, je suis fan de Notre-Dame un petit peu par erreur. Et c'est une erreur qui est plutôt chanceuse parce que Notre-Dame est un programme historique du college football. Donc on va dire que voilà, j'ai eu de la chance de tomber sur Notre-Dame.
Ok, merci. Merci, super petite présentation. Donc, je vais mettre le sommaire de l'émission tout de suite. On a présenté, et je voulais juste rajouter, c'est vrai que Gus, tu le répètes assez souvent là-dessus, Notre-Dame, c'est souvent donc un cursus universitaire assez élevé par rapport à d'autres programmes. Et c'est vrai que d'où tu disais peut-être aussi que au niveau de l'ambiance et tout ça, c'est vrai que les étudiants ils sont un peu moins présents parce que il faut un cursus universitaire assez élevé par rapport à d'autres programmes aux États-Unis. Alors,
c'est plus le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'étudiants.
Ouais.
Il y a
d'accord.
7 ou 8 000 étudiants, c'est quasiment rien quand on regarde les grosses facs du pays. On parlait d'Orlando tout à l'heure avec Pierre. UCF, tu dois avoir 60 000 étudiants par an. Ouais. C'est des chiffres inatteignables pour Notre-Dame.
Mais pourtant, le stade est souvent plein quand même. Souvent plein
oui,
aux couleurs de...
Je d'accord. pense que par exemple, le stade de Clemson est plus souvent plein que le stade de Notre-Dame.
D'accord. Ah, j'aurais pas cru. Mais c'est bien, ça permet de connaître les autres programmes et c'est plutôt cool de savoir, ouais. Donc, je savais pas.
Bon, alors, okay. Après, c'est du collège football, hein. C'est toujours quasiment full.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Bonjour Zappa qui est dans le chat. Donc le sommaire de l'émission. Donc on va débriefer rapidement le match contre Syracuse. On va passer les points forts, les points faibles. On va faire la preview du match contre Notre-Dame. On présentera la depth chart, les dernières news à Clemson si on en a, et on passera les pronos du match et on parlera de l'AP Top 25, le premier AP Top 25 sorti par le comité. Donc voilà, on va aller assez rapidement. Donc Clemson s'est imposé sur le dernier match contre Syracuse. Pierre, je te donne la parole. Déjà au départ, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Comment tu l'as trouvé et comment tu as trouvé l'équipe?
Du coup, le match contre Syracuse, on s'y attendait tous, ça allait être un match piège. Et en effet, ça a été un vrai match piège et on a été à ça vraiment de le perdre. Le match a été compliqué pour nous et on s'en sort vraiment bien. On s'en sort vraiment, vraiment, vraiment bien. Il y a eu plein de trucs positifs et plein de trucs négatifs. Je sais pas si je rentre dans le vif du sujet précisément ou bien... Mais ouais, du coup, non, Syracuse, une toute belle équipe, on le savait, on était théoriquement prêts à les affronter. Et puis c'est parti un peu en cacahuète. DJ Uiagalelei, il a foiré complètement. Or qu'on était tous chauds, moi j'étais vraiment chaud, DJ. Il commençait à sortir un peu sur des mock drafts, il était chaud, on sentait qu'il était en confiance. Et puis là, et pour l'anecdote, j'en parlais justement avec Valentin sur Twitter à ce moment-là. Et il me demandait, tu le vois partir à la draft, nanani, nanana. Je lui dis, pas spécialement à la draft, mais je veux dire, il est chaud. On sent vraiment qu'il y a vraiment le play design, il était pour lui avec les QB run et tout ça. Ça marchait super bien. Et juste quand je lui réponds, il vient fumble en red zone. Et après, on se prend le touchdown juste derrière. Enfin, c'était, c'était très triste à voir, mais et puis après ouais, il a craqué mentalement, il a envoyé je crois que c'est deux interceptions qu'il lance derrière, et puis il s'est fait bencher et puis c'était drôle parce que je sais pas si tout le monde attendait ça ou pas, mais t'as l'impression que ouais, tous les fans de Clemson, ils attendaient un petit peu ce moment clé où il allait se faire bencher et qu'on allait voir Cade Klubnik rentrer sur le terrain, quoi. Du coup, ça c'était cool aussi à voir, mais enfin voilà, je vous laisse. On peut en discuter aussi. Je vais pas tout balancer tout seul, mais voilà.
Après, okay. si je peux donner mon avis, c'est un petit peu l'envie de revoir un Trevor Lawrence bis. En fait, Cade Klubnik, c'est Trevor Lawrence. C'est exactement la même situation. Je me rappelle plus du quarterback titulaire à l'époque de Trevor Lawrence, mais voilà, enfin, Klubnik, il est tellement talentueux, et puis même sur les quelques snaps qu'il a eu, il a été excellent, non ? Face à Georgia Tech ou même là face à Syracuse, t'as envie de le voir jouer. Mais après, Dabo Swinney a dit que DJ était le titulaire quoi qu'il arrive. Donc en fait, au final, bah, Klubnik est juste condamné cette année à rester en remplaçant et à prendre potentiellement le poste de titulaire l'an prochain, je devine.
Ouais, mais pour l'anecdote, c'est bon, peut-être que Swinney l'a dit, mais c'est aussi Klubnik qui l'a déclaré, quoi. Qu'il a dit clairement à DJ, c'est toi le gars, c'est toi qui as le poste. Enfin, t'as pas été benché, c'est pas parce que j'ai été mis pendant le match de Syracuse que ça y est, t'es relégué. Il lui a clairement dit, c'est toujours toi qui est le titulaire et t'es toujours le numéro 1, quoi. Tu vois, du coup, ça. Je sais pas si c'est une preuve de maturité de nouveau du gaillard, mais c'est propre, quoi. Tu te dis, même en ayant eu sa chance contre Syracuse, il estime toujours que c'est DJ qui est le numéro 1, quoi. Tu vois, je sais pas comment on doit l'interpréter. Je sais pas si c'est. Enfin, je sais pas. Mais
faut bien l'interpréter, je pense.
Ouais, c'est ça. Moi, je crois aussi.
Que l'on aime DJ ou pas DJ, on peut pas lui reprocher. C'est un travailleur. La mentalité, elle est là. Qu'on lui reproche ou qu'on lui reproche pas. Et Cade Klubnik, je pense que là-dessus, lui, il a que attendre parce que malgré tout, il sait qu'il aura sa chance, quoi qu'il arrive. Mais de toute façon, si DJ refait un match comme il a fait contre Syracuse, c'est clair qu'il aura, il va, c'est aura le relais. Mais faut, je pense que DJ, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est qu'il est travailleur, quoi. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Et Augusta, tu le défends assez souvent dans les podcasts de The Trick Play, dire que voilà, mais il fait le travail. Il y a beaucoup de quarterbacks au college football qui font peut-être pas des carrières en NFL, mais pour le college football, ils sont là et ils font le taf, quoi. C'est tout, quoi.
Après, je pense que maintenant vous savez, que j'ai un petit peu du mal à interpréter le college football au regard de la NFL, et moi je garde un très bon souvenir de Hugh Galele pour son premier match il y a 2 ans à Notre-Dame. Quand on vous bat, justement, je pense qu'on en viendra, quand on vous bat 47-40 alors que vous étiez numéro 1 national, Hugh Galele avait remplacé Trevor Lawrence qui était blessé à ce moment-là et il nous avait balancé sur la gueule 5 touchdowns, 450 yards. Enfin, il nous avait vraiment martyrisé. Et voilà, enfin, moi je suis pas du tout le mieux placé pour parler des quarterbacks. Mais voilà, le mec, il nous a fait mal. C'est pas un 5 étoiles pour rien, quoi. Il a du talent. Et si Dabo Swinney, hein, avec tous les bons quarterbacks qu'il a sous la main, Deshaun Watson, Trevor Lawrence, Taj Boyd, etc., pense que c'est lui son titulaire, et bah, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et voilà.
Ouais, c'est ça. Donc je rentre vite fait dans un petit débrief du match. Donc il y a Syracuse, ils tentent une 4e-and-2 dans notre. Dans notre yard, mais ils sont contrés, on récupère le ballon. DJ sur son premier ballon à la passe, il trouve Salen en profondeur qui va jusqu'au 30 yards de Syracuse. On commence le match là sur le drive suivant, on arrive en red zone, Will Shipley conclut, on mène 7-0 très rapidement. Syracuse sur le drive suivant, ils font un énorme travail avec leur ligne offensive qui protège super bien leur quarterback Shredder, qui a le temps de lancer, qui a le temps de courir, il a le temps de tout faire, et ils finissent par un touchdown de Sean Tucker, si je me trompe pas, de tête. Donc ils reviennent à 7-7. Par contre après ben on arrive et à la fin du premier quart-temps, on a le ballon, et ce qui se passe c'est que bah, DJ il arrive, on est en red zone, et ce qui se passe c'est que DJ bah, il fumble, et les mecs de Syracuse recouvrent le fumble et ils traversent tout le terrain, ils doivent traverser 85 yards si je me trompe pas à ce moment-là, et ils filent au touchdown. Ça fait basculer un peu le match, le momentum. En plus DJ s'était fait intercepter juste avant la fin du premier quart-temps, donc là on court après le score tout le long, c'est pas évident, on finit par mettre un field goal juste avant la mi-temps. On arrive à 14-10 à la mi-temps. Bon, on n'est pas largué, mais bref. Il y a zéro point de marqué dans le troisième carton. DJ se fait intercepter dans le troisième carton. C'est là qu'il se fait bencher à 4 minutes de la fin du troisième carton. Avec Pierre, là, on rigolait quand même pas trop, quoi. C'était vraiment compliqué.
Il est re-rentré après ? Est-ce que non, DJ est re-rentré dans le quatrième carton ?
Non, il n'est pas re-rentré, non. Et, vite fait, je rectifie mon analyse. On était à 21-10 à la mi-temps. Ils avaient remarqué un touchdown juste avant la fin de la, juste avant la mi-temps, la fin du deuxième carton. Et du coup, on a 21-10. Et là, on galère. Hein. On galère, on n'avance pas. Par contre, la défense nous laisse dans le match. Parce que Syracuse n'arrive pas à marquer de points. Ils n'ont pas joué sur leur force. Vous l'avez répété assez souvent. Ils n'ont pas assez fait courir Sean Tucker. C'est ce qui est vraiment dommage pour eux. Et ensuite, on a Will Shipley qui est des grands jours. Même s'il a fait un fumble en début de troisième quart-temps, il fait un match de folie. Il fait 27 portées, 172 yards de TD, dont un TD de 50 yards au milieu du quatrième quart-temps. Ce qui nous fait basculer. Oui.
Est-ce que vous avez vu ce qu'il a dit cette semaine en conférence de presse ? Parce que vous savez, il a été recruté par Notre-Dame et Clemson. C'était ses deux équipes principales lors de son recrutement. Et il a dit que Notre-Dame demeure ma seconde équipe dans mon cœur. Ils m'ont recruté pendant longtemps et tout. Donc voilà, ça, je trouvais ça plutôt cool. Pas une fausse animosité. Et voilà, moi, j'ai bien aimé cette déclaration.
Bonjour Ryan, France LSU qui nous met un petit message. oui, bien sûr. Et donc, on fait rentrer Kate Klopnik. Pierrot, il m'envoie un message au même moment. Il dit, il faut bencher DJ, il n'y arrivera pas. Et toi, Andrea, je vais te donner la parole. À ce moment-là du match, comment tu es dans les tribunes ? Est-ce que t'es pas bien comme nous ? Comment tu te sens ? Toi qui es en plein dans le stade, comment analyse ce moment-là?
Can you hear me? Le match était très stressant. Très, très stressant. Au stade, on devenait complètement fou. DJ prenait de mauvaises décisions, de nombreux turnovers. Elle ne faisait pas un bon match. DJ a eu deux turnovers en zone rouge. Heureusement que Klubnik a pu entrer et terminer le match. Cade n'a pas joué comme une superstar, mais il a pu jouer comme il avait besoin de jouer. Il a apporté une nouvelle énergie à l'attaque.
Ouais. Et il y a un moment donné qui fait basculer, il trouve une pénalité pour lui qui a été sifflée. On va dire gracieusement pour nous. Il y a la même dans l'autre sens où je pense que les gens de Syracuse peuvent être en colère à ce moment-là parce que c'est vraiment un peu compliqué pour eux à ce moment-là. Mais ce qui fait basculer le match, c'est Will Shipley qui nous fait basculer le match à ce moment-là et qui nous fait repasser devant. Et après, on conclut avec un field goal pour passer à 27-21. Et Shredder est intercepté par R.J. McKen, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. En fin de match, qui fait qu'on gagne le match. Mais c'était très, très, très compliqué. Et c'est vrai que on va passer tout de suite au point fort et au point négatif du match. On va pas débriefer comme on fait d'habitude, ça prend beaucoup de temps. Mais Pierre, pour toi, les points forts du match et les points négatifs, on va dire, même si on en a déjà abordé quelques-uns.
Ouais, moi je pense que le point positif, c'est l'entrée en jeu de Klubnik. Après, comme l'a dit Andrea, il a pas été transcendant. Ça a pas été le Kate Klubnik sauveur, je veux dire, c'est pas vraiment lui qui nous a fait vraiment remporter le match, quoi. C'est plus toute une énergie de l'équipe, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on a réussi à se relever et aller la chercher avec les tripes, et grâce un petit peu à l'arbitrage, hein, on va pas se mentir. Mais c'est ça que je pense qu'il faut retenir, c'est vraiment le changement de mindset avec l'entrée de Klubnik et Shipley qui nous a encore pris sur ses épaules et qui nous a fait gagner, quoi. Et négatif, je dirais de nouveau DJ, quoi. Que dire d'autre, quoi. Ça fait peur de nouveau, quoi. Il était enfin en confiance, on croyait enfin en lui. Et puis là, il nous sort un match crapuleux. Du coup, là, de nouveau, on se retrouve avec les mêmes interrogations. On va parler de Notre-Dame juste après. De nouveau, c'est encore lui le X-Factors. Est-ce que DJ va nous sortir un match à la Syracuse ou bien il nous sort un match comme il nous avait sorti, je sais même pas lequel.
Parce à la que, Wake Forest. À la Wake Forest.
Ouais, voilà, entre autres, ouais, mais c'est ça. Du coup, le point négatif, ça reste quand même DJ, quoi, qui faut qu'il, ouais,
d'accord.
Faut qu'il se reprenne par rapport à tout ça.
Ok, merci Pierre. Andrea, pour toi, les points forts et les points négatifs de ce match.
Ouais. Oh, merci France LSU. C'est gentil. En outre, l'attaque, la défense, le poids négatif. La défense n'a pas bien joué pendant tout le match. Ils se sont la pointe positive et se sont améliorés à quatrième quart-temps. C'était ce dont nous avions besoin. Mickens, point positif. Mickens a capté la dernière exception pour mettre fin de le match.
Ok.
Surtout que, juste dites-moi, c'est bien que justement des joueurs comme Mickens se révèlent, parce que c'était un petit peu l'un de vos défauts en début de saison, les defensive backs, non ? Enfin, on disait que c'était une paire très très jeune, parce qu'il n'y avait plus... je m'en souviens plus de ceux qui sont partis en NFL, et voilà, ça faisait partie de vos faiblesses en début d'année.
Oui, on a perdu Goodrich et celui qui est parti aux Vikings, c'est... Andrew Booth, voilà. Et du coup, c'est vrai que on a perdu ces deux joueurs-là, un peu d'expérience. Et c'est vrai que c'est très jeune dans le backfield. Et après ça s'améliore. Moi, ce qui me fait peur, c'est tout ce qui est jeu aérien. C'est vrai que là, on risque de souffrir même ce week-end contre vous un petit peu avec le tight end.
Il n'y aura aucun problème.
Michael Mayer, je crois, votre tight end est quand même pas mauvais. Oui. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas votre force principale. Et votre quarterback est capable de sortir peut-être le match de sa vie, quoi. Son Iceman moment, comme on appelle.
J'aimerais bien que ça arrive, hein, mais bon, c'est mettre beaucoup d'espoir en quelque chose de très aléatoire.
Ouais. Et puis toi, Gustia, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur le bilan de ce début de saison, on va dire, de Clemson? Pour toi, les points forts, les points négatifs, bon, on sait tous que la défense, c'est un point fort, mais avec Pierre, on a ce point d'interrogation. On trouve que la défense, par moment, ils font les jeux qu'il faut, mais on trouve pas, c'est pas, tu vois, comme la défense de Georgia l'année dernière qui roulait sur tout le monde, quoi. Ton ressenti, toi, là-dessus, tu peux nous dire quoi?
Alors, je pense que je pars un bon ressenti sur Clemson, parce qu'en fait, j'ai commencé à suivre le college football quand Clemson était très très fort. Donc au final, c'est une équipe que je crois connaître assez bien. Vous êtes en 8-0. Au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup d'équipes dans le pays qui sont à 8-0. Il y a qui ? Il y a Tennessee, Georgia, TCU et Michigan et Ohio State. Enfin, voilà, quoi, vous faites partie d'un club très très fermé. Alors, si vous êtes déçu, évidemment, en attaque, on peut attendre toujours mieux de Clemson, parce qu'au final, on juge Clemson à ses performances en playoff. Et c'est sûr, quand on voit DJ jouer comme ça, on se dit, comment tu pourras battre Tennessee? Comment tu pourras battre Georgia? Comment tu pourras battre Alabama? Comment tu pourras battre Ohio State? Je pense que Clemson ne pourra pas gagner avec ce niveau actuel. Et c'est parce que les attentes, elles sont trop élevées. Les attentes sont au niveau de Clemson. Et si on fait fi de ça, je considère que voilà, Clemson est une équipe qui est plutôt complète. Vous avez un super jeu à la course avec un super quarterback, une ligne offensive qui semble bonne quand même comparée à certaines années. On n'a jamais beaucoup parlé des joueurs ligne offensive de Clemson. Ça n'a jamais été vraiment l'endroit par lequel votre attaque passait. On s'était surtout extasié sur les Trevor Lawrence, Deshaun Watson, T. Higgins, etc. Et voilà, vous avez trouvé votre jeu à la course, vous avez une défense qui est toujours aussi dissuasive. Alors certes, il peut y avoir des trous d'air, mais bon, c'est le jeu de ce sport, et je pense qu'il ne faut pas non plus surinterpréter vos faiblesses, parce que toutes les équipes ont des faiblesses, et voilà. Et enfin, ce sont tous votre dilemme.
C'est un plaisir, ça. Il fait plaisir. Hein.
Ah, mais Gus, il est un défenseur de la ICC. Ah, les gens de la SEC ne pensent pas du tout la même chose que lui. Hein.
C'est ah, c'est un biais. J'ai un biais avec la ICC parce que c'est une conférence que j'aime beaucoup. Parce que déjà le basket, le baseball, etc. Et puis, ouais, je suis pour cette diversité géographique en collège football. Donc, si je peux défendre un petit peu la ICC, je suis content.
Oui, puis tant qu'on a Notre-Dame qui est avec l'ICC, l'ICC vivra encore, on va dire. C'est surtout ça, nous. Aussi. Non, ben moi, pour finir, pour conclure vite fait sur le match, pour conclure, eh ben, j'ai la force, ben, c'est le coaching staff qui a su s'adapter à un moment difficile. Il faut savoir quand même que nos coordinateurs offensifs et défensifs, c'est quand même leur première année. Donc, voilà, même s'ils connaissaient le college football, c'est leur première année vraiment en tant qu'à ce poste. Donc, ils ont su s'adapter. Et puis ben, le deuxième point fort, ben, Will Shipley, de toute façon, ce mec-là, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui l'arrête. Et on sait que ça soit surtout en red zone, le mec, si il est en première et goal, deuxième et goal, tu sais que 9 fois sur 10, il y a TD quoi, derrière. Quoi. C'est vraiment, il est quand même assez impressionnant. Et même au contact, il arrive à gagner encore des yards. Et je trouve ça quand même assez impressionnant de sa part. Et puis ouais, je suis d'accord avec Andrea. Je trouve que la défense, elle fait pas le boulot qu'elle devrait faire, quoi. C'est vraiment, vraiment dommage. Après, bah, DJ, oui, bah, on sait que c'est le facteur X. Je vais pas le rabâcher. Voilà, il fait ce qu'il a à faire. On sait très bien que c'est pas un QB, qui sera drafté dans les trois premiers à la draft. Mais voilà, il fait son taf. Et on est bien content d'avoir déjà, vu le début de saison qu'il nous fait, on est satisfait par rapport à l'année passée. On va pas se plaindre parce que l'année passée, il avait quand même 10 interceptions pour 9 TD quoi. Bon, c'est Clemson bien sûr, ça demande le haut niveau, mais voilà, là cette année il a fait beaucoup mieux que la saison passée. Bon, bah, il est passé à côté de son match. On verra ce week-end s'il est capable de relever le défi à Notre-Dame quoi, qui sera un énorme défi pour moi quoi. Et oui, Ryan, merci. Oui, superstar Will Shipley, oui, c'est sûr. Et on va tout de suite avancer, on va passer donc tout de suite au match de Notre-Dame pour rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à Gus. Gus, toi, on sait que même si on t'entend toutes les semaines sur The Trick Play, on sait que le début de saison était un peu frustrant du côté de Notre-Dame. Perdu des matchs un peu ouais, qu'on s'attendait pas à ce que vous perdiez, et vous avez gagné des matchs dont BYU et la semaine dernière contre Syracuse
et
North Carolina. Voilà, on sait que voilà, vous contre les gros vous êtes présents quoi. Donc vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Notre-Dame?
Oula, je peux partir dans tellement de sens différents. Non, évidemment, je pense que la première chose à dire, c'est que nouveau head coach, nouveau staff, nouveau quarterback, ça implique forcément des défaites un peu casse-gueule. Alors de là à perdre face à Stanford et Marshall, faut pas déconner. Et c'est ce qui m'inquiète et me rassure à la fois, c'est que face aux grosses équipes, BYU, North Carolina, Syracuse et même face à Ohio State, certes on perd le match, mais on se défend très très bien. On a répondu présent plutôt. Mais dès qu'on affrontait des équipes qui étaient largement en dessous de nous, c'est-à-dire Stanford et Marshall, on se mettait à jouer à leur niveau. En fait, on s'est fait out-coach à chaque fois dans ces matchs-là. Alors, je le mets sur le compte l'inexpérience de Marcus Freeman et de son staff. Mais voilà, c'est... Je trouve qu'il y a à la fois pas de trop de conséquences à tirer de ce début de saison, si ce n'est qu'en attaque, il y a une question qui va vite se poser. C'est celle de notre coordinateur offensif qui, soit n'a pas du tout les armes en main pour avoir une attaque efficace, ou alors il n'est pas bon. Et c'est pourquoi je pense que déjà, ce sera la clé du match face à Clemson et après la clé de la réussite de nos futures saisons.
Ok, ouais, parce que je crois que le coordinateur offensif, c'est le grand copain de votre head coach, c'est ça, si je me trompe pas. Et...
Non, c'était un de nos quarterbacks début de la décennie, donc il est très très jeune. C'est Brian Kelly, aujourd'hui entraîneur à LSU, qui l'a fait devenir quarterback coach et après l'a promu en tant que coordinateur offensif. Et il est resté pendant l'intersaison quand Marcus Freeman a pris le relais de Brian Kelly. Mais non, non, ils ont. On va dire que leur existence date. De... Enfin, leur amitié date de l'an dernier. Donc.
D'accord, d'accord.
En fait, je suis pas en position de me dire encore. Ouais, comme avec Brian Ferentz, le fils de Kirk Ferentz à Iowa, il va garder Tommy Rees à Notre-Dame en tant que coordinateur offensif parce que c'est son ami. Je le penserai peut-être dans un an, mais aujourd'hui, pour moi, c'est complètement hors sujet.
Et qu'est-ce que tu penses de votre head coach pour sa première saison? Tu te trouves qu'il trouve les clés il trouve les clés quand même, ça avance, c'est correct, tu peux nous en dire quoi?
Il y a tellement d'aspects à aborder pour un head coach. Le premier et un des plus importants, c'est évidemment le recrutement. On a actuellement la troisième place de recrutement du pays. Je pense qu'on va terminer à la quatrième ou à la cinquième place si tout continue comme ça, qui est quelque chose de plutôt inédit dans l'histoire moderne de Notre-Dame. Et ça, c'est le prérequis en fait nécessaire, pour dire encore plus important qu'indispensable, pour gagner des matchs et pour potentiellement... aller jouer le titre bientôt. Et c'est pour ça qu'il a été nominé en fait, c'est que avec ses qualités de recruteur, il nous permet de monter notre plafond encore plus haut. Alors maintenant, la question, c'est savoir est-ce qu'il va réussir à l'atteindre, mais ce qui est sûr, c'est que il se donne les ressources de pouvoir y accéder. Donc ça, c'est sur l'aspect recrutement. Sur le côté un petit peu institutionnel, enfin, tous les joueurs reviennent chaque week-end au match. Là, par exemple, face à Clemson, on aura plein d'anciens joueurs, il y aura plein de recrues. Enfin, il y a vraiment une sorte d'émulation autour de lui. Donc ça, c'est un très bon point. Et maintenant, au niveau du coaching, bah, c'est ce que je disais avant. Il a montré du bon et du mauvais. Maintenant, c'est la première saison. Tous les coachs de première saison, à quelques exceptions près, ont eu du mal. Surtout que lui, c'est un roster qu'il a pas recruté. Son meilleur receveur s'est blessé. Son meilleur quarterback s'est blessé aussi au deuxième match face à Marshall. Il a des circonstances atténuantes, mais il a aussi une part de responsabilité dans nos défaites. Donc voilà, moi, j'attends encore d'attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que... Le ciel est la limite. Hein. C'est pour ça qu'il est à Notre-Dame, c'est parce qu'il peut nous offrir des perspectives de titre national.
Ok. Non, puis ça rajeunit un peu le programme.
C'est complètement ça. Il rajeunit le programme. Évidemment, il y a quelques conservateurs à Notre-Dame qui avaient un petit peu du mal, mais globalement, j'ai vu aucune personne critiquer sa nomination et je trouve que c'est plutôt rassurant parce que beaucoup de personnes auraient pu la critiquer. Dire que c'était même un petit peu par racisme parce qu'il était noir ou parce que c'était son premier poste en fait de head coach. Il n'y a pas eu de commentaires comme ceci, ou alors je les ai pas vus, mais voilà, c'est bien, ça apporte
tant mieux, mais on sait que c'est les États-Unis, au moment où ça peut déraper rapidement sur des propos comme ça, c'est un peu compliqué. Pierre, t'as des questions pour Gus?
Moi, j'ai pas de questions, mais je vois qu'Andrea, elle lève son doigt.
J'allais lui donner la parole après, mais je. Andrea, vas-y. Vas-y, Andrea.
Ah ouais, en petite anecdote sur Notre-Dame. Chauncey Stuckey est le coach des wide receivers à Notre-Dame. Il a joué à Clemson il y a plusieurs années.
Une quinzaine d'années, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et l'avantage d'avoir Andrea dans le podcast, c'est qu'on apprend toujours des choses.
Ouais. Il a joué à Clemson, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai. Donc, vos forces sur ce match, Gus, vos forces, ça sera quoi principalement? Vous avez Foski, si je me trompe pas, qui est super fort aussi. Vous avez quand même des joueurs qui sont super fort, quoi, on va dire aussi, quoi, qui risque d'être drafté très haut à la prochaine draft.
Évidemment, il y a cela. Donc moi, les deux forces, c'est notre jeu à la course et notre défense aérienne. Donc jeu à la course, notre O-line, Joe Alt, Jared Patterson, Blake Fisher, Josh Lugg, et le cinquième, dont j'oublie toujours le nom, Zeki Correll. Ça, c'est vraiment la chose qui a bien marché depuis le début de la saison, c'est notre jeu à la course. On a une O-line qui est surpuissante, qui est vraiment encore meilleure que je le pensais en pass protection. Donc voilà, ça va être très bien. Maintenant, à voir comment ça va marcher avec la D-line de Clemson. Pas certain qu'on arrive à courir plus de 200 yards comme on l'a fait face à Syracuse. Enfin, je suis même certain qu'on ne le fera pas, vu la qualité de votre ligne défensive. Et après, il y a notre couverture, notre couverture aérienne, bah, c'est un petit peu la surprise parce qu'on n'a pas des joueurs très très bien classés. Ça fait partie de nos faiblesses pendant plusieurs années sur le recrutement des cornerbacks notamment. Attention aux bananes que va lancer DJ Uiagalelei avec Brandon Joseph, un safety qui aime bien un petit peu rôder dans les parages, un bon ball hawk safety comme j'aime m'appeler. Et ça pourrait être une des clés du match, c'est en fait la gestion des turnovers. L'équipe qui aura le plus de turnovers, qui gagnera le plus de turnovers, remportera le match selon moi, parce que l'attaque de Clemson face à la défense de Notre-Dame, il n'y a pas un écart de niveau si important, et c'est exactement pareil avec l'attaque de Notre-Dame face à la défense de Clemson. La différence, elle ne sera pas là. Elle sera sur cette capacité à marquer des points sur des ballons récupérés, fumble, interception, etc. Voire même équipe spéciale. Pourquoi pas des punts bloqués ou des touchdowns en retour de kick-off ou de punt. Donc voilà. Moi, je pense que la clé de ce match, elle est là, c'est les turnovers.
Ok. D'accord. Merci de ces précisions. En même temps, donc là, je vous ai mis la depth chart en fond pour du côté offense. Donc, DJ Uiagalelei, pas de surprise. Will Shipley, Phil Mafa, donc Joseph Ngata, Bo Collins, Antonio Williams, Davis Allen, Jordan McFadden, qu'on est bien content de l'avoir cette année encore. Marcus Tate, Will Putnam, Walker Parks et Blake Miller, notre jeune Blake Miller qui fait une super première saison. Et pareil, c'est vraiment super de l'avoir en tackle de l'autre sur notre ligne. Ensuite, on passe vite fait à la défense. Donc là, on a des absents qui étaient dont Carter qui était absent contre Syracuse qui revient. Donc Kenji Henry, Xavier Thomas, Brian Breezy, Tyler Davis, Mike Murphy, Barrett Carter, voilà, ils sont tous là. Jeremy Ann Trotter, Trenton Simpson, Andrew
ça,
Mukuba.
Ça va être hyper intéressant de voir Barrett Carter, Trenton Simpson et Jeremy Ann Trotter Jr. face à Michael Mayer. Je sais pas comment ils sont en couverture. Mais c'est un match-up, peut-être le match-up le plus intéressant de ce match, hormis la ligne défensive de Clemson face à notre ligne offensive. De toute façon, le secret de la défense de Clemson, enfin, il est simple, hein, c'est si tu arrives à arrêter Michael Mayer et la course, bah, tu as de grandes chances de remporter le match. Ça ne m'étonnerait pas que deux joueurs de votre équipe soient mis en coverage sur Michael Mayer, tellement il est fort.
Ouais, c'est sûr que ça sera un gros match-up. Ryan, je suis d'accord avec toi, un gros match de Breezy, mais après Brian Breezy, on en répète chaque semaine, c'est vraiment une saison à part pour lui. Tout n'est pas excusable, mais bon, je pense que la perte de sa sœur apporte beaucoup sur sa saison, et c'est vrai que ça ne doit pas être tous les jours facile. J'espère le voir faire un gros match, mais c'est vrai que bon, bah, c'est pas toujours évident. Il y a des samedis où on le voit un peu plus que d'autres, et des samedis où on le voit un peu moins. Valentin, il dit qu'il est bon, McFadden. Ouais, c'est vrai que bon, bah, il a l'expérience aussi, hein, Pierrot. Hein, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, clairement, il est bon, McFadden. Ouais. Très très bon.
Non. C'est vrai que pour un senior, il nous apporte énormément sur la ligne, l'expérience, tout ça, il apporte beaucoup de choses. Il calme un peu la fougue de certains aussi par moment. Et c'est vrai que tu l'as d'un côté, et de l'autre côté, bah, tu as le petit Blake Miller. Ça aide toujours d'avoir des gens d'expérience sur une ligne, même en college football, c'est hyper important, quoi. Des mecs qui ont fait leur carrière, on va dire, NCAA, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Andrea, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la depth chart? T'as un peu d'infos du côté de Clemson ces derniers jours? Où tout le monde sera là, pas de blessés. Moi, j'ai pas vu de blessés ces jours-ci, mais.
J'espère il va jouer comme il a besoin de jouer. Shipley, Brazé, Mickens, Thomas, KJ Henry. Énorme. Si Clemson peut empêcher Notre Dame de faire courir le ballon et limiter son tight end, Clemson va gagner. Je pense. Aussi, il y aura beaucoup de vent samedi soir. Cela pourrait causer des problèmes pour lancer le ballon. Peut-être beaucoup d'interceptions.
Bah, c'est intéressant, la météo, parce qu'ils annoncent, du coup, de ce que j'ai vu hier, beaucoup de vent et de la pluie. Alors, je ne sais pas qui ça avantage, parce qu'au final, ce sont deux équipes qui sont très physiques. Un match dans les tranchées, je préfère personnellement qu'il pleut plutôt que du beau temps qui permettrait à l'attaque de Clemson de se déployer, ou même encore pire, et c'est ça en fait qui est pas rassurant, c'est que je suis presque à espérer qu'il fasse moche à South Bend pour que notre quarterback ne lance pas trop de ballons. C'est vous dire la confiance que j'ai en lui, confiance que j'avais sur ses premiers matchs, parce qu'il avait été tout simplement excellent face à North Carolina et BYU, mais depuis c'est catastrophique. Il est trop petit, il fait 5-10, il est beaucoup trop petit pour un quarterback, il voit pas les mecs devant, on a des receveurs qui ne se séparent pas. Donc en fait, il n'y a jamais de séparation. Le seul mec qui est toujours seul, c'est Michael Mayer. C'est pour ça qu'on a du mal. Et moins on lance le ballon, plus on a de chances de gagner. Mais encore une fois, là, je vais encore me contredire. Mais plus on court, plus on tombe sur votre run defense. Et vu comment elle est bonne, moi, je doute qu'on arrive à tenir tout le match comme ça, à vous rentrer dedans. Je ne sais pas si ça sera possible. Donc, en fait, on est condamné à lancer le ballon. Et moi, ça me fait très peur.
Ok. Merci de ton analyse. Après, de toute façon, on sait que ça... Il y a les aléas de la météo, ça peut compliquer le match pour les deux équipes. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé, notre duo de tight end peut faire mal à l'équipe de Notre-Dame aussi. Ça peut être un point clé du match, Davis Allen et Jack Brenningstool. On n'en parle pas souvent, c'est vrai que nos tight end des fois font la différence. C'est vrai, ça peut être possible. Pierrot, quelque chose à rajouter sur le match? Toi, comment tu le sens? Vas-y.
Moi, je trouve que déjà de nouveau, comme toutes les semaines, j'ai l'impression que c'est encore un match piège. J'ai l'impression que comme toutes les semaines, on arrive le vendredi et on se dit, demain, ça va être chaud. Hein. Faire attention, ça va être tendu. Et j'ai l'impression que c'est toutes les semaines la même chose. Mais sinon, à part ça, je le sens quand même plutôt bien. Parce que je trouve que finalement, Notre-Dame n'est pas... Ils sont un petit peu dans la même situation que nous, je trouve. C'est un jeu un peu compliqué. Ça envoie pas du lourd, ça envoie pas des grosses passes. C'est un petit peu du gros jeu à la course. Et puis on verra bien si ça passe ou pas. Et puis ça se concentre sur Michael Myers parce qu'il n'y a que lui. Du coup, on va dire que c'est pas un peu stéréotypé, mais c'est presque ça, quoi. Du coup, ça en fait que tu te dis, si tu arrives à les arrêter au sol, à la limite, tu as déjà presque gagné le match. Maintenant, c'est la même chose pour nous, parce que depuis le début d'année, c'est la même chose aussi. Quand t'expliquais par rapport à ton quarterback, franchement, c'est exactement le même problème avec DJ. Tous ces receveurs, ils n'arrivent pas à créer de séparation, ou très peu. Et du coup, on se repose vraiment sur du jeu au sol, et ça a vraiment été le nouveau plan de jeu. Après, ça lui réussit. Mais dès que tu arrives à l'arrêter ou que tu arrives à lui faire des fumbles, on va dire, c'est chaud pour Clemson. Et à chaque fois, on doit se reposer sur Shipley qui donne sortir des drives incroyables ou des troisièmes et je ne sais pas combien pour nous faire avancer et qu'on arrive à aller en red zone, à envoyer un petit ballon, un petit tight end. Mais sinon, je sais pas, je trouve que c'est un peu similaire. Je trouve que les deux équipes sont pas... Il n'y a pas une équipe qui... C'est dur de dire qui est d'ailleurs le bébé et le papa de l'autre côté, quoi. Tu vois,
on verra un beau match, ça c'est certain en fait.
Ouais, voilà, clairement.
On verra un beau match, un match avec des rebondissements au moins. Ça se jouera pour notre grand mal à tous, hein, parce que je pense qu'on va encore s'arracher les cheveux la nuit prochaine devant notre télé. Ça va jouer sur des conneries, ça va jouer à la fin. Je sais pas si je vais tenir, mais au moins on aura un match, quoi. Et j'en profite pour dire que ça va, Valentin, là, de répéter ce que je dis. Il a pas assez de profondeur d'analyse pour avoir son avis à lui.
Je partage tous les. Voilà, je sais qu'entre vous, vous, vous chambrez un petit peu. Donc, Valentin est en forme. Bonjour, Valentin. Déjà, oui, premièrement, on a oublié de te dire de te saluer dans le chat. oui, DJ lancé, c'est sûr que là, s'il nous fait le même match contre Syracuse, on va se faire peur. Mais pour lui, ouais, Valentin.
Mais si, Valentin... Si vous faites le match qu'il a fait contre Wake Forest ou contre Notre-Dame il y a deux ans, là, vous nous mettez 20 points.
Ouais, mais après Valentin, moi, je l'écoute parce que je suis pas expert comme lui. Et c'est vrai que bah, le poste de QB, il le connaît très bien. Et moi, j'avais demandé justement le match après Wake Forest, j'avais demandé une analyse de DJ. Il m'avait renvoyé, mais il me dit, il a de la chance de pas être intercepté. Je pense qu'il serait en sexe, ça fait intercepter plusieurs fois et tout. Et je lui fais confiance. Après, moi, j'ai pas le recul, j'ai pas assez de vécu de football, j'ai pas été joueur, je connais pas le poste concrètement comme lui, donc je sais pas quoi. Mais je lui fais confiance quand même sur ses analyses quoi. Alors après, ben voilà, DJ ça a réussi. On va dire qu'il s'est vraiment planté contre Syracuse. Voilà, s'il fait le même match que contre NC State, je pense qu'il a été solide. Voilà, je pense que ça pourrait aller quoi. Ça pourrait aller. Et Valentin, il va de sec à ICC, mettez de rire Gus. Il a attendu la sec. Il a ri jaune voilà de la part de Ryan, bagarre de Charles. Voilà, non, ils sont en forme ce soir dans le chat, ils sont en forme. Ça fait plaisir. Donc, Andrea, t'as quelque chose à rajouter sur le match? À part que tu seras, je le répète, si ceux qui sont dans le chat, Andrea sera en direct de Notre-Dame demain soir pendant le match.
ouais, je suis hâte de voir le stade. Notre-Dame, South Bend, Touchdown Jesus, tous.
Ah, c'est vrai que c'est un stade mythique de college football et c'est vrai que ben voilà, c'est un programme historique et ouais, donc se déplacer là-bas, c'est quand même un truc à part. On sent quoi qu'il arrive, on sent le match, on sait qu'il va se passer quelque chose quoi qu'il arrive.
Non mais j'espère que ce sera super Andrea, le match. C'est une super expérience, j'espère que ce sera cool pour vous.
Merci Goose.
On conclut. Allez, on va conclure sur la dernière petite chose. Voilà, on conclut les pronos sur ce match. Je donne la parole allez, à Andrea, les femmes d'abord. Andrea, ce match, quel pronos tu peux nous dire? Un score?
Ah, ouais. J'ai un peu peur pour demain, franchement. 21-18, Clemson. J'espère.
Et okay. Ça peut être 21-18 d'un côté comme de l'autre. Hein.
Alors, Gus, vas-y.
Franchement, j'ai rarement été aussi indécis sur une rencontre. Ça peut tellement partir tous les côtés. Il peut tellement y avoir de couilles, en fait, que je sais pas quoi penser.
D'accord.
Je pense que Clemson est meilleur. Je pense, franchement, si je devais être objectif, je dirais que Clemson gagnerait le match. Je pense que voilà, Clemson va gagner le match aussi sur un score de moins de 5 points, un 21-17 ou un 27-21 par exemple. 27-21, ça peut être un score pour Clemson que je vois bien arriver. Après, j'espère que ce ne sera pas le cas. Quoi.
Ok, Pierre, un pronom, Pierrot.
Moi, je dirais 14-7 pour Clemson. Je sors le match... de bonhomme, ça va se batailler dans les tranchées et je dis pas que ça va pas être beau à voir, ça va être beau à voir, mais je pense pas que ça va être football champagne quoi. Du coup 14-7, mais on gagne quand même.
D'accord. Donc moi je refais vite un petit bilan. Clemson et Notre-Dame se sont rencontrés 5 fois dans l'histoire. Clemson mène 3-2. Il y a eu une rencontre en 77. Notre-Dame avait gagné 21-7. Clemson en 79, Clemson avait gagné 16-10. Après, ça a été un très très long avant de se rencontrer. Quand ils ont rejoint la ICC, quoi, on va dire. Clemson Notre-Dame en 2015, c'était 24-22 pour Clemson. Clemson Notre-Dame en 2018 au Cotton Bowl, 30-3 pour Clemson. Et Notre-Dame, le dernier match où DJ avait remplacé Lawrence. Donc ils avaient gagné 47-40 Notre-Dame. Donc Clemson mène 3-2 la série, mais on, voilà, on, je ne pars pas très serein pour ce match, mais on va dire, allez, pour me différencier des copains, allez, on va dire un 24-22, un truc comme ça. 24-21, 24-22, voilà, on va pour se différencier vraiment des autres, quoi. Donc ouais, on a tous très peur. Gus de l'autre côté, pareil.
Les deux comtés ont aussi peur l'un que l'autre. Et voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Après vous, ça ferait un gros en plus de plus de tomber, parce que ouais, Syracuse qui est classé.
C'est certain que cette défaite, une défaite pour vous, vous ferez plus de mal que pour nous.
C'est sûr. Mais vous là, si vous venez à battre Clemson, imaginons demain, vous rentrez dans le top 25 la semaine prochaine. Hein. Du moins lundi matin, vous êtes dans le top 25, quoi, parce que vous avez battu tous les gros matchs, on va dire, les matchs à votre portée, vous avez perdu, et vos gros matchs, vous les avez gagnés. NC State, Syracuse, BYU. BYU, c'est pas le BYU qu'on attendait, mais c'est quand même fallait les battre, quoi. Donc, c'était là-bas, je crois, en plus, non? Non, c'était à Notre-Dame? Je sais plus.
Non, c'était à Las Vegas.
À Las Vegas, oui, c'est ça, à Las
Vegas. C'était un match à domicile pour Notre-Dame.
Oui. Oui, dommage, oui, c'était un match à Las Vegas, oui. Tac, Zappa, je vois un match serré, mais une victoire de Clemson, ok, en prions pour nous, Zappa. Donc, on finit l'émission par le comité, leur premier classement de la saison. C'était publié sur tous les réseaux et tout. Donc, Tennessee en tête, alors que Tennessee est annoncé deuxième. Et je crois que c'était Georgia qui est annoncé premier, si je ne me trompe pas de tête. Et du coup, là, ça a inversé. Et du coup, en plus, ce week-end, il y aura Tennessee-Georgia. Ça sera un match vraiment qui sort la poudre à 20h30, heure française. Ça sera plutôt un beau match à suivre. Donc on est classé 4e. On est passé devant Michigan dans la tête du comité. Toi, Gus, qui a le recul un peu par rapport à nous, on va dire, qui connaît bien ce mode, ce système, comment tu dis logique, pas logique, comment tu trouves ce classement? Moi, je sais qu'il y a 2-3 équipes, ça me gêne un petit peu. Qu'est-ce que tu peux dire, toi?
Rapidement, parce que j'ai pas tant de choses à dire que ça. Le top 5 est très bien. Alabama en 6 devant TCU, ça me gêne énormément vu la saison de TCU et le fait qu'Alabama, hormis face à Arkansas, n'a pas sorti de grosses victoires. Oregon est à sa place, USC est à sa place. Et LSU en 10, je les mets peut-être 13, 14 ou 15, pas de problème. Mais 10, c'est juste pour justifier Alabama, comme la place de Texas à la 24e position. C'est aussi pour que Alabama ait une victoire classée. Sinon, hormis ça, non, je pense que c'est plutôt un bon classement. Peut-être qu'Illinois est un peu loin, 16e, c'est vraiment pas... je les aurais peut-être mis devant Penn State. Même si Penn State a perdu face à Ohio State et Michigan, ça reste deux défaites. Illinois, la meilleure défense du college football. Donc, ils auraient au moins mérité d'être devant les Nittany Lions. Content de voir Tulane. Ça doit être la première fois de leur histoire qu'ils sont dans le top 25 du comité. Kansas State aussi s'est mérité leur position. Enfin bref, voilà, je pense pas que c'est un mauvais classement. Les seules choses de mauvais qu'il y a, c'est LSU et Texas pour justifier en fait une potentielle place d'Alabama en playoff.
Ouais. Non mais là-dessus, je suis assez d'accord. Même si LSU revient bien sur cette deuxième partie et sur ce fin de première partie de saison, ils font des bouts.
C'est pas LSU que je critique, c'est la place de LSU. C'est pas LSU qui est classé 10, c'est dans la tête du comité la future victoire d'Alabama.
C'est ça.
LSU mérite évidemment d'être dans le top 15 après le match face à Ole Miss, notamment où ils ont gagné, je crois, 45-30. Je pense qu'ils peuvent battre Alabama ce week-end d'ailleurs, même si depuis maintenant 10 ans ils ont un peu de mal à domicile face au Crimson Tide. Mais c'est pas LSU le problème, c'est Alabama.
D'accord. Pierrot, je lâche les chevaux, vas-y. Toi, on sait que c'est surcoté pour nous. Vas-y, Pierrot, défonce-nous.
Bah non, c'est pas ça. C'est que du coup, c'est comme Gus a dit tout à l'heure, on est une équipe qui est solide et on est à 8-0. Du coup. Je sais pas, une équipe à 8-0, ils vont pas nous mettre, 17e, quoi, tu vois, ils sont obligés de mettre plus. Voilà. Après, 4e, pas 4e, C'est dur de dire, mais c'est juste dans la réalité. Quand tu as regardé les matchs de Clemson, la qualité de jeu,
De toute façon,
voilà.
quatrième ou cinquième,
Le
si
coach
vous
n'y
êtes
est
en
pas.
playoff, il faut gagner tous les matchs. Et si Michigan bat Ohio State et que vous gagnez tous vos matchs, Michigan sera quand même devant vous. Donc au final, j'ai envie de dire que c'est pas, vous n'avez pas tant votre destin entre les mains, à la condition que Michigan remporte tous les matchs. Donc.
Ouais, mais c'est ça, mais du coup, ça se jouera juste à la fin. On pourra dire telle équipe a été meilleure que l'autre, mais je sais
Parce
pas,
que
je me.
là. Parce que là, en playoff, on va pas se mentir, mais tu tombes contre. Là, ça serait Tennessee, imaginons. Mais Tennessee, vu la force qu'ils ont en ce moment, on prend une valise de points. Là, c'est même pas une valise. On prend des wagons de points, c'est le cas de le dire. Je sais pas, moi. Je sais pas ce que t'en penses, Pierrot. Mais peut-être pas, hein, mais sur le jeu aérien, on sait pas défendre la passe longue, quoi. Ce que je veux
Non,
dire,
mais
quoi. C'est
c'est sûr
compliqué, quoi.
qu'on serait pas ridicule, tu vois, parce qu'on a quand même vraiment des playmakers à beaucoup de postes, et donc on serait pas ridicule, c'est pas ça, mais c'est vraiment qu'en qualité de jeu, vraiment, c'est sûr que, ouais, il y a plein d'équipes qui nous tombent, il y a plein de, ça parlait de la SEC tout à l'heure, il y a plein, on tombe contre des équipes moyennes de la SEC, je suis pas sûr qu'on est à 8-0, et je suis presque sûr qu'on l'est pas, quoi. Alors après, est-ce que c'est le niveau de jeu des SEC ou pas, mais après, voilà, c'est dur de dire, tu peux tout remettre en cause, et du coup, ben, ça marche pas, tu peux pas tout remettre en cause, du coup, on y est, et on doit être content d'y être, quoi. Je pense qu'il faut aussi, faut le voir comme ça, quoi, faut positiver, quoi.
Ouais, Andrea, toi, comment t'as vu sortir le classement, tu t'en as pensé quoi?
Clemson est numéro 4. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit numéro 5 ou 6. Je ne sais pas s'ils font partie du top 4 en ce moment. On est beaucoup plus après ce week-end, peut-être.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Faudra, ouais, de toute façon, si on veut avoir notre place, si on veut mériter notre place, comme disait Gus, faut pas perdre de match. Et après, si Michigan nous passe devant la fin, bah, Michigan passera devant. Mais faut gagner tous ces matchs et après, on pourra se poser des questions. Mais de sûr, ce qu'il y a de sûr, c'est que normalement, on devrait, imaginons si on joue pas les playoffs, je sais que Pierrot, il veut entendre que parler de playoffs, il s'en fout du reste, mais on aura un beau bowl quand même, quoi qu'il arrive. On n'aura pas le Cheez-It Bowl de l'année dernière, quoi.
Oh, Cheez-It, il était cool, hein, Cheez-It.
Ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, très bien. On va conclure là-dessus. Merci Gus pour ta dispo. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Franchement,
Non,
merci,
c'était
c'est
cool.
vraiment cool. À chaque fois qu'on vous demande, quand vous êtes dispo, vous êtes là. C'est vraiment cool, les gars. C'est super, quoi.
Vous m'aviez déjà proposé une fois, je m'en
Oui.
souviens plus c'était pour
Pour la
quelle
draft,
occasion?
pour parler de
Pour la
draft, et
draft?
puis tu avais dit clairement que la draft, toi, tu connais, tu maîtrisais pas, et que voilà,
Ouais.
c'était pas ton truc, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Nous, avec Pierrot, on avait contacté les autres, mais on avait contacté toute la team, quoi. Maintenant, il manque plus que Baptiste qui n'est pas venu dans le podcast, mais voilà, je lui ai lancé une invitation, et voilà, on attend ses réponses. On va voir si on arrive à trouver un créneau ensemble, et puis voilà. Mais c'est un plaisir de vous recevoir tous, de tous vous avoir eu au moins une fois dans l'émission, et on pourra encore échanger. Petite info, normalement je devrais être sur le Discord pour essayer de diffuser le match en direct samedi soir. J'ai vu que Ryan l'avait fait avec le match contre Ole Miss. Et je trouverais ça plutôt sympa. Donc, voilà, je vais essayer de me mettre sur le Discord. Ça fera une petite animation. Voilà, s'il y a des matchs de la SEC en même temps, tout ça permettra de faire un petit truc tous ensemble en
Il y
échangeant dans ces
aura
différents groupes. Ça peut être sympa.
Alabama et LSU en même temps que
Ouais.
Notre-Dame Clemson.
Donc, voilà. Donc, on verra. Si mon réseau me permet, je ferai le nécessaire. Et puis voilà. Andrea, je te souhaite une bonne soirée et un bon match demain. Profite bien et fais-nous vivre le tailgate de Notre-Dame. Qu'on voit ça, qu'on partage ça sur les réseaux. Ça sera génial.
Merci, merci.
Et aussi pour finir, j'allais le finir. On avait mis un jeu concours à gagner un maillot de Clemson. Olympique Lyonnais a remporté ce maillot. Donc,
Olympique.
voilà, le beau maillot. Il faut savoir que c'est des maillots de match, hein. Donc, ce n'est pas des maillots qu'on porte tous les jours, c'est vraiment des beaux maillots qui ont été portés en match. Donc, c'est plutôt cool. Pierrot, on se dit à demain. Bonne soirée à toi, Pierrot.
À demain en forme, hein. Ça va être un
Ouais.
beau match,
Hey, fellas,
Kelly.
we ain't gonna
On se
ever
réjouit,
back down
voilà.
from
Et puis, bah,
nobody.
Gus,
merci pour tout et à
I don't
bientôt,
care
à la
who
semaine
it is.
prochaine.
This
Merci,
is a
ciao, bye bye.
brotherhood.
Ciao.
And if
Ciao.
we stand strong together, we can't be denied.
one of us go down, we have another and another and another that's ready to fight. So let's hit this field and bang them, bang them, bang them. Somebody light me up.
It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in some morning in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what's my motherfucking name? What they gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to put boost asses, mean on ya, like a dream. When I'm rumbling, you're gonna scream, mama. So bring drama to the king, Brahma. Fight it to an extreme mana. Thank you, Brother Tech Nine.